Nos mémoires populaires. Des histoires personnelles qui font la grande histoire. Un podcast réalisé par Alexandra Josse. Une guerre d'Algérie. Témoignage de Georges Garrier. De basketteur à Limoges à instituteur en Algérie.
Bonjour, donc je m'appelle Georges Garrier. Je suis né en Ariège, tout près de l'endroit où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes à Arout, et à une dizaine de kilomètres d'ici, et à Saint-Ain, où j'ai passé toute mon enfance, jusqu'à l'âge de 8 ans. Mon père était chef de train d'un tramway électrique qui existait depuis les années 1920, je crois, et qui faisait la liaison entre Saint-Ain, au fond de la vallée, et Saint-Girons, donc 20-25 kilomètres. Et ce petit tramway électrique, il a été supprimé un petit peu avant la guerre, dans les années 36-37, par là. Donc mon père a dû trouver du boulot et il a été invité à se déplacer en Limousin. Un de ses amis d'enfance lui avait trouvé un poste qui l'intéressait beaucoup à la mine de tungstène de Saint-Léonard-de-Noblat, la patrie de Poulidor. Je suis devenu Limousin par obligation. J'y ai passé toute mon adolescence, du début jusqu'à la fin. 9 ans, 20 ans. Et à Saint-Léonard-de-Noblat, j'avais une passion. C'est le basket. C'est curieux parce qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas parler de basket, sachant que pour jouer au basket, il faut faire 2 mètres maintenant. Au moins, avec mon 1m68, j'étais quand même une petite vedette locale à l'époque. Et c'est à partir de cet amour du basket que je peux parler d'Algérie. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que à Limoges, il y avait déjà de grands clubs de basket. Et deux de ces clubs, la SPTT Limoges et un autre plus connu, le CSP Limoges, à l'époque, je les intéressais. Je venais de passer le bac. Je voulais être prof d'éducation physique, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Et là, par l'intermédiaire de l'ASPTT de Limoges, j'avais fait la connaissance de l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports, qui d'entrée me dit, bon, tu as le bac, moi j'ai besoin de remplacer des profs titulaires qui partent au service militaire, tu pourrais bien faire l'affaire. Et effectivement, il m'a désigné, alors ça s'appelait à l'époque professeur sans titre. J'ai été professeur d'éducation physique sans titre au lycée Gay-Lussac, par exemple, à Limoges, une première fois. Et en suivant, une deuxième fois, à l'école nationale professionnelle de Limoges, à Beaublanc. Donc, j'ai fait 2 postes d'instituteur sans titre. Mais moi, je voulais un titre. Alors, comment faire ? Là aussi, j'ai eu un tuyau par des amis de Limoges. Et ils avaient trouvé une combine. On pouvait, en étant bachelier, être admis directement à la dernière année de l'école normale d'instituteurs d'Alger. Et j'ai été admis, donc je me suis trouvé en Algérie, à Alger, à Bouzaria, c'est sur les hauteurs d'Alger, comme élève instituteur. C'est là que commence mon aventure algérienne, bien sûr. Mais en même temps, pendant mon année de pédagogie, là, j'ai fait la connaissance des futurs instituteur algérien, et vraiment de là, des Kabyles, des Arabes, des Pieds Noirs, il y avait de tout. Et je ne sais pas si je dois le dire carrément comme ça, mais j'ai eu le sentiment à l'époque, étant métropolitain, d'avoir été un peu rejeté par les Pieds Noirs, alors que j'ai eu beaucoup d'affinités avec les Kabyles, par exemple. Bon, c'est comme ça. Alors voilà comment j'ai fait connaissance et du pays, et des coutumes, quelque chose qui ensuite va me servir énormément. Alors ça, c'était un peu avant la guerre. Hein. J'ai été nommé instituteur à l'année scolaire 1953-1954. Il y avait une liste de postes possibles. Je voulais le Sahara. Eh bien, j'ai eu Guérara dans le Nzab, à 100 km de Gardaïa. C'est déjà le nord du Sahara. Donc j'étais heureux comme un prince.
Et pourquoi le Sahara en venant de Limoges? Qu'est-ce qui...
Je pourrais répondre n'importe quoi, mais en fait, je ne sais pas trop. Est-ce que c'est l'Afrique du Nord, c'est le soleil, les palmiers, c'est quelque chose d'exotique? Peut-être que c'est ça. Et à Guérara du Mzab, c'était une grande oasis. À peine arrivé là-bas, moi, ancien basketteur, j'ai commandé à Saint-Étienne un panneau de basket, cercle de basket, tout compris. Et là, je vais vous étonner, mais en année scolaire 1953-54, les petits mozabites, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, les petits élèves mozabites, garçons, dans la cour de l'école de Guérara, ils jouent au basket. À l'époque, on pouvait, après quelques années d'enseignement comme instituteur, être détaché comme prof de gym. C'est quelque chose qui était possible. Et c'est ça que je visais. On m'avait même promis à Alger que probablement, dans les 2 ou 3 ans qui auraient suivi mon enseignement à Guérara, je pouvais viser Tipaza. Tipaza, le bord de la mer, quelque chose à faire rêver. Sauf que j'ai pas été amené à rêver longtemps parce que 1953-1954, quand on sait que la Toussaint 1954, c'est l'assassinat de Guy Monneron, avec tout ce que ça a pu provoquer comme réaction dans le personnel enseignant. Donc, j'étais content d'être enseignant, d'être dans un pays magnifique, avec quelques difficultés quand même. Mais ça sentait la guerre. Alors là, je me suis dit, il faut faire une pause dans ta vie, dans ta vie d'enseignant en tous les cas. Je n'avais pas fait de service militaire encore parce que j'étais sursitaire. J'ai tout de suite résilié mon sursis.
Ça veut dire quoi, sursitaire?
Alors sursitaire, ça veut dire qu'à l'époque, à 21 ans, on était majeur et on était appelé à faire son service militaire à cet âge-là, à 21 ans. Mais ceux qui faisaient des études, on le reportait d'autant d'années d'études. Pour pouvoir mener à bout les études, il fallait aller jusqu'au bout. Bon. J'avais été inscrit à l'école de droit de Limoges, j'y allais rarement. Et puis après, j'étais donc à l'école normale instituteur, donc j'étais considéré comme étudiant. Donc j'avais pas fait mon service militaire. Je me dis, la solution maintenant, puisque ça chauffe en Algérie, c'est d'aller ailleurs faire mon service militaire. Il y avait des possibilités à l'époque, par exemple, de faire le service militaire en Allemagne ou en Afrique noire. Alors je me dis, bon, ça me conviendrait. Donc je résilie mon sursis. Aussitôt après, je suis convoqué, 126e régiment d'infanterie à Brive-la-Gaillarde. Et là, à peine arrivé, on nous apprend que la formation va être ultra rapide parce que vous partirez en Algérie. Ça c'était pas tout à fait dans mes projets. Alors, j'ai essayé de me renseigner pour voir s'il n'y avait pas une autre combine. Et c'est un ancien qui m'a dit, mais t'as une autre combine, des bacheliers, demande à faire les EOR, l'école des officiers de réserve. Je pose ma demande, là, régiment, et je suis admis à l'école des officiers de réserve, à Saint-Mexan, à côté, dans les Deux-Sèvres. Ma promotion, là, quand elle est arrivée à Saint-Mexan, l'école, on nous a annoncé tout de suite, votre formation, elle est accélérée parce qu'on a des besoins en Algérie. Donc, mon projet est tombé à l'eau et effectivement, en septembre 1956, j'ai atterri en Algérie, reçu aux ICER et ensuite au camp du maréchal pour être nommé chef d'une section de combat à côté de Tizi Ouzou sur le Sidi Ali Bounab. Donc, opération loupée pour moi. Une section, c'est entre 20 et 25 bonhommes. Hein. Ce qui m'embêtait beaucoup, c'est que j'avais la responsabilité de 25 ans. Alors, premier temps, l'État français avait décidé d'envoyer des appelés au service militaire en Algérie. Mais ils n'étaient pas formés. Par contre, il y en avait qui avaient déjà fait leur service militaire et qui étaient formés. C'était des gens qui, la plupart du temps, étaient mariés, pères de famille. Mais ces gens-là, ils ont été rappelés. Ils avaient fait leur service militaire et ils sont revenus 2, 3, 4, 5 ans après en Algérie faire la guerre. Et moi, j'ai hérité de la plupart de ces gens-là au départ. J'avais une majorité de soldats qui étaient des rappelés. Alors, des rappelés pères de famille ou jeunes mariés, je ne vous dis pas avec quelle facilité ils refusaient tout ce qu'on leur proposait. Dans la foulée, mon commandant de compagnie, qui avait repéré que j'avais été instituteur, pas longtemps, mais j'avais été instituteur, il me dit, j'ai un projet pour vous, votre section, elle va s'occuper de la construction d'une école. Alors on était à Beni Ouarzedine, c'était un village de Kabylie. Tous mes rappelés, ils ont été invités à se déguiser en maçon, charpentier, tout ça. Et on a mis 3-4 mois, hein, peut-être un peu plus, à construire une école, un bâtiment. Hein. Et j'avais aussi à former un instituteur. Alors j'ai choisi un gars du Nord, un charpentier, qui ne voulait pas sortir, il m'avait déjà prévenu, moi je ne sors pas, je ne fais pas la guerre. Donc le charpentier était instituteur, je lui avais donné quelques tuyaux. Et cette école a bien fonctionné, les gamins arrivaient, jusqu'au jour où on s'est aperçu que, pensant avoir réalisé une œuvre humaine qui amenait l'enseignement, la connaissance, les jeux à des enfants, croyant avoir fait une œuvre formidable, on s'est rendu compte à la longue qu'on leur avait fait le piège le plus terrible. Parce que dans le village, dans la Beni Ouarzedine, il n'y avait pas d'hommes. Les hommes, ils étaient au maquis. Mais, à tour de rôle, ils rentraient chez eux. Quand ils rentraient chez eux, qu'ils apprenaient que le gamin était allé à l'école, ça n'allait plus. Parce que la mission qui était donnée au Fellaga, c'était d'empêcher les enfants d'aller à l'école française. Longtemps après, on a compris dans quel piège on avait mis les mères de famille qui, le matin, hésitaient pour envoyer leurs enfants à l'école. Mais s'ils ne les y envoyaient pas, ils auraient affaire à l'armée française, donc aux soldats qui étaient autour d'eux. Mais s'ils les envoyaient, ils auraient affaire aux maris, aux frères, etc., qui, eux, ne voulaient pas, en tant que Fellaga, que leurs enfants aillent à l'école. On école le piège qu'on avait tendu innocemment, quoi.
L'école était obligatoire pour les jeunes Algériens ?
C'était obligatoire pour tout le monde.
Comme on dit sur le territoire français.
C'est un territoire français, c'est ouais. Un département. On était dans un département français, ça ne se discutait pas.
Ce témoignage de Georges Garrier a été enregistré au printemps 2024 à Arout, en Ariège. Un podcast réalisé par Alexandra Joss. Ce podcast est placé sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale.